VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h temps universel, dans 10 minutes, l'Amérique et vous avec John Lyndon, mais tout d'abord, le journal. Au Burkina Faso, le président Marc-Christian Kabore a prêté serment aujourd'hui au Palais des Sports à Ouagadougou. Pour les détails sur la cérémonie d'investiture, rejoignons notre correspondant dans la capitale burkinabé, Zoumana Wonogo.
Cette prestation de serment a été partagée entre l'aspect solennel et l'aspect festif. Cette prestation de serment a aussi été rehaussée par la venue à Ouagadougou de 9 chefs d'État. Les présidents de la sous-région Mali, Niger, Togo, Bénin, Sénégal, Guinée et même un peu plus loin le Gabonais Ali Bongo.
Qu'est-ce que le président Kabore a dit dans son discours d'investiture?
Ce qu'il faut retenir le plus, c'est qu'il souhaite que l'autorité de l'État soit respectée dans le Burkina Faso. Puisque après l'insurrection, après les putsch, il y a un peu une faiblesse de l'État. Où il y a l'incivisme, il appelle les Burkinabés à ce que force reste à la loi. Il souhaite aussi que la 4e République dans laquelle nous sommes soit conjuguée au passé. Et pour cela, il appelle tout le monde au dialogue. Il entend faire plusieurs rencontres avec les partis politiques, les organisations de la société civile, pour que le Burkina Faso se réconcilie avec lui-même et se réconcilie avec les autres afin d'aller vers le développement.
Qu'en est-il de son programme de gouvernement?
À ce niveau, il se trouve maintenant avec une majorité suffisante pour pouvoir appliquer son programme, mais un programme qui ne sera pas forcément son seul programme parce que ceux qui sont venus dans la majorité présidentielle auront aussi quelques points sur lesquels il faut qu'ils tiennent compte. Il a la majorité. Et dès demain même, le président de l'Assemblée sera choisi et on n'en doute pas, il sortira des rangs de son parti, le MPP.
Notre correspondant Ouagadougou, Zoumana Wonogo. Début aujourd'hui au Niger du contrôle du fichier électoral de la prochaine présidentielle par l'OIF. 4 experts de l'Organisation internationale de la francophonie sont depuis hier à Niamey pour des opérations de vérification de ce fichier de 7,5 millions d'électeurs. Ce contrôle avant la présidentielle de février 2016 avait été réclamé instamment par l'opposition. Guinée-Conakry, 2 ans après le premier cas d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la Guinée est officiellement débarrassée de l'épidémie, Barassikora.
L'OMS a annoncé ce mardi la fin de la transmission d'Ebola en Guinée. 2 périodes de 21 jours, la durée maximale d'incubation du virus, se sont écoulées depuis le second test négatif sur le dernier patient guéri. La Guinée entre maintenant dans une période de surveillance renforcée de 90 jours, a indiqué l'OMS, rappelant que le risque persiste au-delà de ces 42 jours en raison de la subsistance du virus dans certains liquides corporels, en particulier le sperme, où il peut survivre jusqu'à 9 mois. Cette épidémie d'Ebola, la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976, a fait plus de 11 300 morts sur quelques 29 000 cas recensés. Un bilan toutefois sous-évalué selon l'OMS. Les 3 pays les plus touchés sont la Guinée, qui compte officiellement 2 536 morts pour 3 804 cas. La Sierra Leone, déjà déclarée exempte de transmission le 7 novembre, et le Libéria, où la fin de l'épidémie a été annoncée 2 fois en mai et septembre dernier, avant de nouvelles résurgences.
Au Mali, le bureau de douane de Nioro a saisi 500 kg de résine de cannabis dans un véhicule en route pour l'Algérie. Les autorités maliennes sont convaincues d'avoir repéré une nouvelle zone de transit dans le trafic des stupéfiants. Au micro de Modibo Dembélé, les explications du lieutenant-colonel Amadou Konaté, directeur régional des douanes de Kaï.
Je ne vais pas aller trop vite en conclusion, mais c'est une nouvelle route que nous sommes en train de découvrir par rapport à la résine de cannabis. Parce que la route connue, ce n'est pas la route du Mali. La résine n'est pas destinée à la consommation locale, donc c'est un produit pas de toute évidence qui est en transit sur l'Europe. Donc c'est une nouvelle route. Les fraudeurs, ils profitent de toutes les situations. Vous savez qu'il y a un courant de trafic aujourd'hui entre le Maroc et notre pays. Donc les gens profitent de toutes les opportunités. Il faut renforcer la formation. Et nous avons bénéficié de beaucoup dans ce domaine de la coopération. administration française. Il faut continuer, tout simplement.
Dans ce cas, quel peut être l'apport des populations civiles?
Ça, c'est la vigilance qui a travaillé. Mais au-delà de la vigilance, il faut le renseignement dans la lutte contre les produits illicites. Et le renseignement, on peut l'exploiter avec la population. L'apport de la population, c'est vraiment de rapprocher les services de lutte contre les produits illicites, donner les informations qu'ils détiennent par rapport à des gestes et des faits qui leur paraissent bizarres, tout simplement.
Le lieutenant-colonel Amadou Konaté des douanes de Kaye au Mali.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En RCA, les Centrafricains se rendent demain aux urnes. Ils vont choisir leur président et leurs députés. Un scrutin très attendu est placé sous haute surveillance, nous dit notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
À un jour de ces élections, les mises en garde se sont multipliées le long de la journée. Le ministre de la Sécurité publique, le général Pierre Chrysostome Sambia, a rassuré les électeurs que toutes les dispositions nécessaires sont déjà prises pour favoriser le bon déroulement du scrutin. De son côté, le ministre de la Défense nationale, Joseph Bindoumi, a indiqué que la sécurisation de cette échéance dans les zones dites sensibles sera assurée par des éléments des forces armées centrafricaines en faction ces derniers temps sur les postes statiques dans la capitale. À Bangui, justement, la MINUSCA a renforcé son dispositif sécuritaire, notamment dans les zones où le vote référendaire du 13 décembre avait été menacé. Une rencontre sur la sécurisation de ces élections a réuni ce mardi à Bangui la communauté internationale et les candidats à la présidentielle. La communauté internationale a exhorté chaque parti à contribuer à la réussite de ce processus afin de sortir le pays de l'ornière. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Le dialogue inter-burundais en Ouganda, les représentants du gouvernement burundais, de l'opposition et de la société civile se sont retrouvés aujourd'hui autour du médiateur, le président ougandais Yoweri Museveni. Chaque camp est resté campé sur ses positions. La délégation gouvernementale a exclu toute discussion avec le Sénat RED, coalition de partis politiques et de groupes de la société civile opposés au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Mais pour Frédéric Bamvu Guignomvira, secrétaire général du Sénat RED, Bujumbura n'a pas le choix.
J'ai l'impression que le gouvernement de Bujumbura n'entend pas parler du dialogue. En fait, ce sont des gens qui ont évolué dans l'usage de la force. Or, l'usage de la force, aujourd'hui, n'a pas de mise. Ça veut dire ou bien ils discutent ou bien ils partent. C'est ce que ça signifie. Et le monde devra se liguer pour dire, monsieur, on ne peut pas accepter que tu continues à tuer les Burundais, les Burundaises, parce que ce sont les citoyens du monde. Donc le monde doit se lier contre justement tel comportement. Ou bien il dialogue, ou bien il décide de partir.
Frédéric Bamvu Guignomvira, secrétaire général du Sénat RED, joint à Bruxelles. L'actualité hors d'Afrique, le secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé que l'Iran avait accompli l'une des étapes les plus importantes prévues dans l'accord international sur son programme nucléaire. Selon M. Kerry, Téhéran a transféré lundi de l'uranium faiblement enrichi vers la Russie, conformément à l'accord signé en juillet à Vienne avec les grandes puissances. Les précisions de Lionel Gaïma.
Selon M. Kerry, ce transfert porte sur un peu plus de 11 tonnes de matériaux et comprend la totalité de l'uranium enrichi à 20% qui n'avait pas encore été assemblé sous forme de plaques de combustible pour le réacteur de recherche de Téhéran. Moscou a confirmé la nouvelle, dit l'AFP, tout comme le chef du programme nucléaire iranien Ali Akbar Salehi. Pour rappel, l'Iran s'est engagé à ne pas détenir plus de 300 kilos de ce matériau lors de l'entrée en vigueur de l'accord de Vienne. Cet accord prévoit la limitation d'une partie de ce programme, en particulier l'enrichissement d'uranium sur une période de 10 à 15 ans. Ces limitations ne concernent pas le développement du parc nucléaire civil iranien. L'Agence internationale de l'énergie atomique déterminera lorsque l'Iran aura rempli toutes ses obligations en la matière, ce qui devait permettre la levée progressive des sanctions économiques imposées par les États-Unis et d'autres pays.
Et ici aux États-Unis, un jury de Cleveland, dans l'État de l'Ohio, a décidé de ne pas inculper un policier blanc ayant abattu en novembre 2014 Tamir, un garçon africain-américain de 12 ans qui tenait à la main un pistolet factice. Les jurés n'ont trouvé aucune preuve de conduite criminelle de la part du policier, a annoncé lundi le procureur de Cleveland, Tim Maginty, clôturant ainsi une année de manifestations d'activistes et de simples citoyens choqués par la vidéo de l'incident. Et enfin, Des incendies dans la ville du Cap en Afrique du Sud ont dévasté des centaines de cahutes dans des quartiers défavorisés. 9 personnes sont mortes et 1500 familles ont perdu leur logement. Les incendies de bidonvilles sont malheureusement fréquents en Afrique du Sud. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Bonne soirée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.